Il y avoir, si vous voulez, que pour telle vertu, un homme X est supérieur à l'homme Y, mais que pour l'autre, une autre vertu, c'est l'homme Y qui est supérieur à cet homme X, au premier. Et donc, pour cette mitzvah-là, c'est lui qui est l'élève de celui-là, et pour l'autre mitzvah, c'est lui qui est l'élève de celui-là. Vous voyez à peu près le problème? Ça y est, c'est clair? Bon. Alors, de quoi on parlait? Ben oui, je voudrais vous terminer, il est déjà 5 heures. Bon, juste 10 minutes. Alors, la question est comme ça, c'est que il y a contrainte de la révélation, et cette contrainte, elle va durer d'une certaine manière tout le temps où la prophétie était une donnée expérimentale. Hein? Quand Dieu se révèle, Israël a accepté la Torah. Où est le mérite de cela? C'était d'être celui qui accepte cette contrainte de la Torah. Est-ce que c'est librement que j'ai accepté cette contrainte? Mais à partir du moment où la révélation se fait, il n'y a pas de liberté. Alors c'est ce que dit le Midrash. Alors maintenant que vous êtes là, bon, alors ou bien vous acceptez d'être vous-même, ou bien vous disparaissez. C'est ça que dit le Midrash. Pourquoi? Parce qu'ici, la Torah apparaît dans cette phrase, ou bien vous acceptez ma Torah, ou bien là sera votre tombe. La Torah apparaît comme ma carte d'identité. La Torah, c'est la Neshama d'Israël. Alors, à partir du moment où c'est moi Israël, alors ou bien j'accepte d'être Israël, ou bien je disparais. Il n'y a pas d'autre châtiment possible. C'est être ou ne pas être. Ça, c'est la phrase de Shakespeare. Et il n'y a pas de doute. Peut-être, moi, personnellement, je suis persuadé que Shakespeare, comme beaucoup d'autres grands hommes de l'humanité, ont été envoyés dans l'histoire pour être des guides. Et que Shakespeare a écrit toute son œuvre rien que pour dire ça. Ça suffit. Et il a dit ça, et puis il a dit maintenant, j'expire. Ça suffit. Bon. Et là. Et c'est ça le problème. Et alors, quand va se dévoiler qu'effectivement Israël avait profondément accepté cette Torah qui lui est imposée, okay, au moment de la fin de l'histoire de la révélation? Quand? Au temps de Pourim. C'est à Pourim que se dévoile qu'en vérité au Sinaï, Israël avait vraiment librement accepté la Torah puisqu'il continue à être fidèle. C'est clair? Voilà le premier enseignement. Et donc, vous avez donc le verset du chapitre 9, « Kimu vekiblu ha-Yehudim » Ça veut dire que les Juifs ont réalisé et accepté quoi, dit la Gemara? Ils ont réalisé ce qu'ils avaient accepté déjà. Parce que sinon, l'ordre du verset aurait dû être l'inverse. Ils ont accepté, réalisé. Qu'est-ce qu'ils ont accepté, réalisé? L'alliance de Pourim. Okay? Et cela dévoile qu'ils avaient vraiment accepté la Torah au Sinaï. Voilà le premier enseignement. C'est clair? Bon, là, je vous ai ouvert une parenthèse. Qui est que, en fait, cette espèce de contrat qu'il y a de Tnaïm, qu'il y a au pied du Sinaï, n'est pas très clair. Parce que, selon ce Midrash, Dieu dit à Israël, ou bien vous acceptez ma Torah, ou bien là sera votre tombe. Or, en fait, ils ont été enterrés dans le désert. Okay? Mais pourquoi ils ont été enterrés dans le désert? Parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Je pense que c'est clair. Donc, vous avez là une équation qui apparaît, qui est très importante. Accepter la Torah et rentrer en Israël, c'est la même chose. Elle dit des choses énormes. Ça veut dire que ceux qui ne rentrent pas en Israël, c'est le signe qu'ils n'ont pas vraiment accepté la Torah. Ils ont accepté une religion de la Torah, mais mutilée. Une religion expurgée de tout ce qui concerne l'Eretz Israël, c'est pas la Torah. C'est pas la Torah authentique. Vous suivez? Ma? Justement, ça veut dire, justement, ça vous dévoile que ce refus d'entrer en Eretz Israël, c'est encore une incapacité d'être vraiment soi-même. Et c'est pourquoi ils sont enterrés là-bas et ils reviennent en Gilgoul jusqu'à la fin des temps. Quand je vous dis Gilgoul, vous comprenez, je ne traduis pas parce qu'il faudrait traduire par réincarnation, c'est un tout autre concept. Okay? Et quand je vous dis notre génération, c'est le Gilgoul de la génération de la sortie d'Égypte à travers 2000 ans d'histoire. Eh bien, ça a une idée énorme, farfelue, le délire. Okay? Mais sachez bien que très concrètement, c'est ça. Nous sommes ce peuple-là. On peut revenir 1000 fois. Et on le sait que la dernière fois. quand c'est trop tard. Bon, enlever cette phrase, c'est pas nécessaire, mais en fait, l'idée est très simple. On revient tant qu'il faut pour arriver en haut, dans le tikkun. Et on perd rien de ce qui a été déjà acquis comme mérite. Ça vous explique l'inégalité. Hein. Chacun commence au stade de son problème, là où il avait laissé la fois d'avant. Ça y est, c'est clair ? Bon. Voilà. Les Neshamot. Il n'y a pas ? Écoutez, c'est au niveau du stade X de chaque Neshamot. Non, les Neshamot. Non, non, mais nous, chaque Neshama a toute une évolution à faire. Okay. Qui est 25 degrés, je vous apprendrai ça un jour, 25 degrés de tikkun de mérite, et de ce degré à degré, il y a une infinité de sous-degrés. Okay. Bon. Et, et par conséquent, toutes les Neshamot ont en principe, je vais corriger ça tout à l'heure, le même point de départ, et pourquoi il y a inégalité ? Parce qu'aucune n'est au même stade. Mais leur destin est équivalent. Attendez. Mais ceci dit, du point de vue de leur essence, les Neshamot procèdent de points différents de Adam Harishon. Je vais vous donner une comparaison. Okay. Et quand je vous dis, toutes les Neshamot de l'humanité étaient au sein d'Adam Harishon. Okay. C'est clair. Bon. Et c'est le principe de l'égalité, le principe de tous les hommes, de l'égalité de dignité de tous les hommes. Nous avons tous le même père. Okay. C'est cette Neshama qui est en cours d'histoire dans le monde entier. Or, la comparaison que je vous donne, c'est les cellules du corps. Vous avez des cellules des pieds, vous avez des cellules de la tête, vous avez des cellules du cœur, des cellules des reins, etc. Au niveau de la neshama, c'est la même chose. Okay? Chaque neshama a son shoresh dans la tête, dans les reins, dans les pieds. Alors, un peuple qui sont les neshamot des pieds de Adam, c'est pas la même chose qu'un peuple qui sont les neshamot de la tête de Adam. Vous voyez, c'est clair ? Alors, tu devines. C'est pas nécessaire de poser la question, ça va de soi. Bon, mais comprenez bien une chose, c'est que toutes sont nécessaires. Comprenez, imaginez un homme qui n'aurait que la tête, il lui faut des pieds. Alors les pieds c'est très important, mais c'est les pieds. Et la tête c'est la tête. Qu'est-ce que tu dis ? Ben oui. Et alors ? Mais quand il les a engendrés, il leur a donné une partie de leur âme. Bon. Mais ça, vous comprenez par vous-même. Chacun a un thème d'identité à résoudre. Je vais vous donner une donnée de la Kabbalah, mais intentionnellement, je vous la donne comme ça, brutalement, que vous ne comprendrez pas, je sais très bien. Toute la stature de Adam Harishon a déjà son tikkun. Il reste un point de l'épaule gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire. Alors, tant que ce point de l'épaule gauche n'est pas encore arrangé, le Messie ne peut pas venir enfin se dévoiler. Et alors, bon, vous voyez que ce sont des choses incompréhensibles. Hein ? C'est-à-dire, l'histoire de l'humanité est très, très, très avancée. On est presque à la fin. Bon, il y a un point de l'épaule gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous apprendrez ça dans 40 ans, peu importe. Hein ? Le foie ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Non. Voilà le problème. Alors, imaginez que, dans tous les peuples, il y avait cette tradition de la destinée des âmes. Ça s'est perdu un peu partout. Certains ont gardé un peu, approximativement. Alors, vous avez des enseignements dans telle ou telle tradition qui ressemblent à ça, à leur manière. Mais finalement, il s'agit de la même chose. Okay. Vous avez en Occident, la seule tentative cohérente, mais malheureusement c'est plein de charlatans, c'est le spiritisme. Okay. Mais les églises spirites. Mais c'est plein de charlatans. Mais il y a des gens authentiques chez eux. Et finalement, la partie de ce sujet qui nous concerne, c'est disons que tout se passe comme si effectivement cette génération qui était à l'épreuve sur cette épreuve-là, sortir d'Égypte, accepter la Géoula, et puis arriver en Eretz Israël, okay, eh bien, est en rejet d'histoire jusqu'à nous. Bien sûr, à l'échelle individuelle, nous n'avons rien à voir avec ces hommes qui ont vécu il y a 3000 ans dans le désert. Mais c'est notre même thème d'identité. Ce qu'il y a derrière comme Neshama, c'est la même chose. Et c'est pourquoi ce n'est pas du tout étonnant de voir que le peuple juif se divise de la même manière sur ses problèmes que ce que la Torah nous raconte sur les problèmes autour de la sortie d'Égypte. Oui, il y a ceux qui restent en Égypte. Il y a ceux qui sortent d'Égypte mais restent dans le désert. Et il y a ceux qui rentrent en Eretz Israël. C'est un peu plus compliqué que ça, mais vous voyez les grandes divisions. Ça y est, c'est clair ? Bon. Alors, ce que je voulais vous ajouter maintenant, et puis on va s'arrêter là, parce qu'il est déjà, oui. D'accord. C'est que cette époque éventuelle où l'arrêt de la révélation se ferait est déjà indiqué dans la Torah. Alors, j'aurais voulu avoir beaucoup plus de temps, mais je vous donne au moins la référence. Prenez dans Devarim, chapitre 30, si je me souviens bien, 31. Attendez voir. Ma. Quoi ? Non, chapitre 31, verset 18, vous allez prendre. Non, ce verset là, 30, verset 3, c'était le verset des deux retours. Okay. Alors, vous y êtes ? Voilà. Allez, ça y est, la main d'Alef. La médaleur, Yutret, Ken. Alors, je vous lis le verset. Mais vous lirez vous-même tout le chapitre. Ve'anochi aster astir panai bayomahu. Et moi, dit Dieu, caché, je cacherai ma face en ce jour-là. Je vous mets l'expression au tableau. La racine. J'étais habitué à cette expression en hébreu, le verbe et le substantif. Cacher, je cacherai. Haster, astir. Pas le substantif, le redoublement du verbe. Haster, cacher. Astir, je cacherai ma face en ce jour-là. Al kol ha'ra'a, à cause de tout le mal, asher asa, que ce peuple a fait. Regardez bien. Ki fana el Elohim acherim. Car il s'est tourné vers d'autres dieux. Maintenant, vous savez assez de choses pour comprendre le verset. Ça veut dire, si ce peuple quitte Eretz Israël et rentre dans d'autres pays et refuse de revenir en Eretz Israël, la dispersion a pour résultat l'arrêt de la révélation. Okay? C'est clair ? Or, qu'est-ce que c'est aller dans d'autres pays ? Ça veut dire se mettre sous la souveraineté d'autres dieux. Vous vous rappelez la Maseret Ketuvot qu'on avait étudiée ? Okay? Pourquoi je me cacherai de ce peuple, je cacherai ma face, ça veut dire arrêt de la révélation, parce qu'il a quitté Eretz Israël. Et je voudrais bien quand même que vous compreniez, Ken, que c'est ce que la Torah dit. Ce n'est pas un rabbin sioniste qui vous parle, c'est la Torah qui dit ça, c'est écrit. C'est clair ? Vous avez compris ? Alors, quelle serait l'autre manière d'expliquer ça ? Eh bien, j'arrête la révélation parce que vous devenez des idolâtres, vous adorez des dieux étrangers. Mais qu'est-ce que ça veut dire adorer des dieux étrangers ? Ça veut dire avoir un autre drapeau. Ça veut dire avoir un autre passeport. Qu'est-ce que ça veut dire adorer des dieux étrangers ? Ça veut dire se prendre pour français, américain, anglais. Et c'est la Gemara qui l'explique en clair. Bon, alors la Gemara, je vous donne la référence, nous dit, ça s'est passé au temps de la reine Esther. Et voilà comment elle pose la question. Esther, minatora, minaïn. Où il y a allusion à Esther dans la Torah, dans ce verset, Vanochi Aster Astir. Et c'est clair ? Alors ne croyez pas que c'est un jeu de mots. Okay ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ce fait que Dieu se cache, ça va arriver au temps de la reine Esther. Donc ce n'est pas par hasard qu'elle s'appelle Esther. Okay ? Mais parce qu'au temps de la reine Esther, la révélation a cessé. Vous voyez ? Alors vous voyez comment se relient les deux choses. Et c'est clair ? Bon. Et alors, vous allez apprendre deux expressions. C'est Astarat Panim. Astarat Panim. Ça se relie à ce que dit le verset. Astarat Panim, le fait que la face est voilée, l'arrêt de la révélation, occultation de la révélation. Okay. Vous avez aussi l'expression correspondante, Hester Panim. Astarat ou Hester Panim. Hester Panim. Ça, c'est le niveau. Israël sait que il y a des circonstances qui font que la révélation s'achève. Le mérite de la communauté au temps de Esther, c'est d'avoir accepté de continuer l'alliance de la Torah, et donc ça dévoile qu'au Sinaï, c'était bien librement qu'on l'avait accepté. C'est clair. Bon. Maintenant, ce qui risque d'arriver, c'est que on soit dans une situation de Esther Panim, et on ne sait même pas que c'est Esther Panim. Qu'est-ce que c'est Esther Panim? Les choses sont cachées, mais il y a des choses qui sont cachées. Mais on s'habitue au fait que les choses sont cachées, on ne sait même pas qu'il y a des choses qui sont cachées. Okay. Et ça, c'est... Là, c'est, on tombe dans le désespoir absolu. Yeah. Quand je sais qu'il manque quelque chose, il y a un espoir. Mais si je ne sais même pas qu'il manque quelque chose, il n'y a plus d'espoir. Alors ça s'appelle Esther Betor Esther. C'est au second degré. Le fait que ça soit caché, ce fait même est caché. Vous voyez la catastrophe, okay. Ça y est, c'est clair. Bon. Alors, c'est ce qui est arrivé. Et en ce temps-là, catastrophe, parce que...